vais demander au professeur Maria Soto de nous rejoindre. Maria Soto est gériatre, elle est responsable du CMRR de Toulouse, présidente de la Fédération des Centres Mémoire. Vous allez, Maria Soto, nous parler des troubles du comportement qui sont vraiment des éléments difficiles à vivre pour les proches. Je vais vous donner mon micro si celui-là ne marche pas. Et il y a notamment des nouveautés dans leur prise en charge. Est-ce que votre micro marche?
Je crois que oui.
C'est parfait. Bienvenue à vous. Vous préférez être à la... Oui, vous avez une présentation.
Oui, oui, oui.
Très bien, bien, on vous écoute.
Bon, bonjour à tous. Merci pour ceux qui sont restés m'écouter. Remercie aussi à la Fondation de m'avoir invitée, de m'avoir permis de partager avec vous ce sujet qui me tient au cœur. Parce que même si je suis une spécialiste dans cette maladie, la complication qui m'intéresse le plus parmi tout, hein, c'est effectivement les troubles du comportement. Donc, ça c'est la vision commune des médecins. D'accord ? Quand je demande à mes collègues des autres villes, à mes collègues d'ici, c'est pour vous, pour toi, qu'est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer ? Et ils me commencent à raconter, oui, une altération de la mémoire épisodique, des fonctions exécutives altérées, une aphasie, une apraxie constructive, blablabla. Chose qui est très importante, je ne dis pas que non. Mais quand on demande la vision des aidants, et quand je parle des aidants, ce n'est pas que des aidants naturels, hein, les proches, les familles. Aussi, je parle des aidants professionnels, d'accord ? Des infirmières à domicile, des infirmières en EHPAD, des kinés à domicile, tous les professionnels aussi qui vont travailler auprès d'une malade atteinte d'une maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Parce que, bien que le titre c'est maladie d'Alzheimer, mais quand je parle de ces troubles du comportement, toutes les autres maladies apparentées, maladie accordelée, oui, maladie frontotemporale, vasculaire, n'importe laquelle, aussi, ils vont présenter des troubles comportementaux, psychologiques et du comportement. D'accord ? Donc, effectivement, quand on vous demande, soit professionnel, soit proche, famille, c'est vrai, effectivement, que les problèmes de mémoire, et on ne dit pas que non, hein, ça marche ? Oui. Les problèmes de mémoire, les déficits cognitifs, la dépendance physique, bien sûr que c'est important. Mais c'est vrai que dès le début, quand je dis dès le début, même avant les premiers signes de troubles de la mémoire, ça va être un changement de traits de personnalité. Ils sont peut-être avec des traits plus renforcés pour celui qui était un peu anxieux, celui qui était un peu méfiant, celui qui était... ça peut être un renforcement des traits de personnalité, même avant l'apparition des troubles de la mémoire. Ça peut être aussi une perte de l'estime de soi, l'apathie, déjà le professeur Roland nous a parlé de l'apathie, hein. Perte d'intérêt, du coup on s'intéresse moins aux autres, à ce qui se passe dans les news, avec ce qui se passe avec le petit enfant, ils sont plus dans leur monde, dans le boule là, et encore une fois, ce sont les premières, beaucoup de fois, ce sont les premières manifestations de la maladie, même avant la maladie, même avant les troubles de la mémoire. Aussi, au début de la maladie, en stade léger, il y a quand même une conscience, non ? Pour la plupart, il y a des autres patients qui ne sont pas conscients de ces troubles, mais il peut avoir beaucoup plus de l'anxiété, même des dépressions. On peut avoir de la culpabilité. Quand la maladie avance, il peut avoir des autres symptômes psychocomportementaux de l'ordre psychologique, pas qu'une dépression, une vraie anxiété, aussi des hallucinations, hein, des choses qu'il voit et qui n'existent pas, des délires, des idées fausses, on m'a volé, beaucoup de fois en rapport parce qu'ils ne trouvent pas ces objets personnels, donc c'est mes enfants qui m'ont volé, c'est l'aide ménagère, etc. Et donc des idées fausses ou des jalousies, des persécutions. C'est extrêmement fréquent, ces idées délirantes. Un peu plus, il peut avoir aussi des conduites agressives, pas que l'agressivité physique. Quand je dis de l'agressivité, c'est une opposition aux soins. C'est une façon d'être agressif. Je ne veux pas votre aide, je ne veux pas, je peux m'aider tout seul. Je ne veux pas une infirmière, je ne veux pas que tu m'aides pour me mettre... Et il y a des réactions un peu voilà, défensives, mais parfois agressives, hein, verbales ou plus tard physiquement. Et plus tard... Quand la maladie avance, et ce sont des troubles qu'on trouve surtout hein, dans la maladie beaucoup plus avancée, c'est effectivement le comportement moteur aberrant, c'est-à-dire une activité qui est pour nous, il n'y a aucun but, mais pour eux, oui, ça peut être du bricolage, démonter les tiroirs, les placards, que c'est extrêmement difficile, ça n'est pas de soi domicile, mais que pour eux, il y a un sens, hein, c'est important pour eux, parce qu'il y a, mais pour nous, ça veut dire, mais il n'y a aucun but de ça, c'est, voilà, c'est le bazar. La déambulation, voilà, cette marche sans but, encore une fois sans but pour nous, pour eux ils ont beaucoup de buts parce que peut-être c'est une façon de s'exprimer aussi, et voilà, et ce qui est de l'agressivité. Donc vous voyez tout le panel hein, de symptômes psychologiques comportementaux qu'on peut avoir dès les stades débutants, même pré-symptômes cognitifs jusqu'à des stades beaucoup plus avancés. Donc les SPC, quand je parle de SPC, symptômes psychocomportementaux, mais comme c'est trop long, donc je mets SPC, hein, les symptômes psychocomportementaux sont très mauvais. Sont très mauvais. Probablement, si vous êtes professionnel, vous êtes famille, vous savez que dès que l'apparition d'un trouble du comportement, soit voilà, une opposition aux aides, soit des délires, soit... C'est un peu sa vie. Il y a un virage quand même de la prise en charge, du pronostic, et finalement on voit que ça accélère un peu tout. Hein. Déjà, ça accélère la dépendance, la pauvre qualité de vie à la fois pour le patient, qui est dur hein, quand on délire, quand on n'est pas en sécurité, qu'on est anxieux. Effectivement, la première personne qui en souffre, c'est lui, hein, c'est le patient ou la patiente. Mais aussi l'aidant qui est à côté, bien évidemment. Il y a une institutionnalisation précoce, même si l'étude de professeur Roland n'avait pas montré comme facteur, mais nous, on le voit dans la clinique, dès qu'il y a des gros troubles du comportement à domicile, c'est vrai que la prise en charge, c'est beaucoup plus complexe, et qu'on a besoin d'un cadre environnemental beaucoup plus sécurisant et spécialisé, et avec des professionnels spécialisés sur le sujet, et l'augmentation de l'aidant, et même une mortalité précoce. Mais ils ne sont pas que mauvais, ils sont aussi très fréquents. Et comme je vous ai dit, tous les panels que je vous ai dit de type de troubles psychocomportementaux, dès le début jusqu'à ces stades avancés, tous, mais quand je dis tous, et je dirais tous, hein, les études montrent 98% des patients, à un moment donné, quelle que ce soit la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, ils vont avoir au moins un trouble du comportement. Donc c'est extrêmement fréquent. Donc, quelles sont les deux problématiques ? Il y a deux problématiques pour la prise en charge, pour le traitement, pour faire face à ces troubles psychocomportementaux si perturbateurs. La première problématique, c'est que finalement, c'est l'hétérogénéité de ces symptômes. Et après, on va voir l'option thérapeutique, les traitements qu'on a aujourd'hui. Par rapport à l'hétérogénéité, donc déjà... Le phénotype, le type, vous avez vu qu'il y a plein de différents symptômes, mais ces symptômes fluctuent dans le temps, parfois on ne sait pas pourquoi, du coup ça disparaît, ça revient, c'est superpose, une agressivité physique, c'est secondaire, un délire de persécution, des troubles du sommeil, des troubles de la conduite alimentaire, il y a aussi une superposition, donc ça rend quand même aussi très difficile hein, leur prise en charge, et... Leur cause est très multifactorielle et vous allez me permettre de revenir dans la prochaine diapo sur ça parce que c'est un des clés pour la prise en charge. Qu'est-ce que vous allez me dire ? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'avancé pour la prise en charge, pour le traitement ? Bon, il y a deux types de prise en charge, la pharmacologique, ce que sont les cachets, et après la non-pharmacologique. La pharmacologique, quand on parle des gros troubles du comportement comme de l'agressivité, des hallucinations, des délires qui méritent un traitement pharmacologique fort, comme les antipsychotiques, l'aldol, l'oxapac, le risperdal, l'olanzapine, je vous donne des noms probablement que ça vous voilà que vous connaissez. Ces traitements antipsychotiques, ils ne sont pas si efficaces dans les essais thérapeutiques. D'accord, donc on n'a pas une efficacité monstrueuse, au contraire, c'est très faible l'efficacité. Et en revanche, il y a des gros effets secondaires. C'est du poison. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas les mettre, hein, parce que quand il faut, il le faut. Allez, je suis la première que je prescris quand il faut, parce que le délire, l'agressivité est trop sévère, est trop fréquente, il a trop d'impact. D'accord, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Mais dans la mesure du possible, c'est vrai que c'est la dernière option. Qu'est-ce qui se passe avec le non-pharmacologique ? Le non-pharmacologique, je viendrai tout à l'heure, il y en a, et l'évidence scientifique des travaux a démontré une efficacité supérieure au cachet, supérieure à l'haloperidol, supérieure au risperdal, etc. Mais je vous allez voir que la difficulté, vous allez me dire, mais pourquoi on ne l'implémente pas ? Parce que c'est difficile, à l'heure actuelle, tel qu'il est notre système de santé, c'est difficile de les implémenter parce que ça demande beaucoup de formation, d'accord ? Soit de professionnels, soit des aidants informels ou des proches. Donc je vais revenir à l'idée de la hétérogénéité. Voilà. On a dit qu'une des difficultés de leur prise en charge, c'est la cause qui est très multifactorielle. Et je reviens à cet schéma, que je ne sais pas si vous le voyez bien, mais que je trouve que c'est la clé. Pour ceux qui m'ont déjà écouté, je dis ça c'est la clé. Ça c'est la clé de comprendre le trouble du comportement, ça c'est la clé de la bonne prise en charge, un bon traitement. D'accord ? Déjà, il faut comprendre, et c'est ce qu'on fait dans la consultation comportementale avec Madame Augusto, infirmière qui est là et qui nous accompagne aujourd'hui, c'est la compréhension. Pourquoi mon proche malade, pourquoi il croit qu'on lui vole, quand c'est absolument pas vrai? Pourquoi il est angoissé si je suis là et qu'à 18h, on est tranquille tous les deux et qu'elle veut partir, elle est angoissée parce qu'il faut aller récupérer les enfants à la maison, à l'école. Il s'agit, elle veut partir. D'accord ? Donc, il faut comprendre d'abord que l'origine, c'est la maladie elle-même, la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, comme j'ai dit tout à l'heure. D'accord ? Il y a une destruction de neurones, des circuits qui vont contrôler pas que la cognition, mémoire, langage, mais aussi l'affectivité, le comportement, notamment lobe frontal. D'accord ? Et donc, pareil que la mémoire est abîmée, aussi le comportement, l'affectivité est aussi altéré. D'accord ? Et donc, effectivement, quand il y a un trouble de la mémoire, qu'on a oublié qu'on a 80 ans, qu'on a oublié que nos enfants sont déjà grands, qu'on a même des petits-enfants, qu'il ne faut pas les laisser, quand on a oublié tout ça, effectivement, et ça vous arrivera à vous, hein, de tout un coup, vous êtes chez vous, dans votre salon, tranquillement, vous regardez la télé, du coup, il arrive un monsieur en pyjama que vous ne reconnaissez pas, moi, je crierai comme une folle, n'est-ce pas ? C'est ça ce qui les arrive. Pour la dame qui veut partir à 18h, elle est convaincue qu'elle doit aller récupérer ses enfants à l'école. Et donc, moi, je ferai tout le possible pour aller récupérer mes enfants à l'école parce que le CLAE ferme à 18h. Vous voyez ? C'est ça. Donc, ça, c'est clé. Déjà, la compréhension de ça, c'est énorme pour à la fois les aidants professionnels de comprendre ça et aussi pour les familles. Parce que ça change beaucoup des choses, hein, déjà pour la prise en charge. Donc du coup, avoir des troubles du comportement, on est plus vulnérable au stress, au changement, aux personnes nouvelles, n'importe quoi. Et, comme je viens de vous dire, hop, troubles du comportement. Mais il n'y a pas que la maladie. Il va y avoir aussi des facteurs liés aux patients, deux facteurs liés à l'aidant, soit professionnels ou naturels, et des facteurs liés aux environnementaux. Et tout ça, ça va interagir entre eux. Le patient, sa personnalité, peut-être il a une maladie, de la douleur, il s'ennuie, il a trop de stimulation, l'environnement, manque d'activité, problème de sécurité, plein de facteurs qui peuvent aggraver ou être même responsable d'un trouble du comportement. D'accord ? Et après, au milieu, il y a les dents. Et en plus, la difficulté, qui est tout ça, va se modifier pendant le temps. Donc, toute cette analyse diagnostique de, voilà, quels sont les facteurs associés, quels sont les possibles facteurs modifiables, où est-ce que je peux intervenir, en plus, ça va être modifié dans le temps, donc on va devoir réévaluer pendant un certain temps, au compte d'un changement de comportement. Donc, quelle cause, quelle prise en charge ? Donc, la prise en charge va dépendre de ça et de ça. Donc du coup, vous avez dit, c'est compliqué quand même, parce que chaque personne est unique, chaque environnement est unique, chaque don est unique, chaque maladie est unique, chaque moment est unique. Donc, effectivement, il n'y a pas une solution. Ce n'est pas l'oldol, le risperdal, que parfois il faut le, encore une fois, hein, parfois il faut le prescrire. Mais il n'y a pas un modèle qui va marcher pour tous. Et donc, beaucoup de consensus, tous les consensus d'experts internationaux, nationaux, disent toujours le même. C'est l'approche non pharmacologique et c'est une approche personnalisée, une évaluation, une analyse personnalisée des facteurs de risque, voir quels sont les modifiables, agir sur ça. Une fois qu'on agit sur ça, on voit effectivement la sévérité, la fréquence de l'agressivité, par exemple, du délire. Et si malgré tout ça, pour X raisons, ce n'est pas suffisant, d'accord, on mettra des traitements pharmacologiques. D'accord ? Toujours avec la balance risque-bénéfice. Donc, j'aimerais m'arrêter. Parmi, je pourrais beaucoup parler du patient, je pourrais beaucoup parler des facteurs liés à l'environnement, mais je vais m'arrêter aux facteurs les plus importants. Et c'est la seule chose qui a démontré quelque chose dans la recherche scientifique. Je ne vais pas m'arrêter pour vous montrer, comme l'a fait le professeur Andreux, au Roland, sur les différentes études, parce qu'il y en a plein, et je n'ai pas de temps, mais vous allez me croire que toutes les études qui ont démontré que la formation de l'aidant diminue l'agitation, l'agressivité, je vous dis que c'est vrai. D'accord ? Et tous ces essais thérapeutiques, bon, pas thérapeutiques, tous ces essais d'intervention qui ciblent la formation de l'aidant, soit professionnel, il y a une chose qui s'appelle l'effet des tailles d'une étude. C'est-à-dire, c'est la taille, c'est la proportion de l'intervention, par exemple, le risperdal, ou par exemple la formation de l'aidant, qui est responsable de la diminution de l'agitation et de l'agressivité. L'effet de taille de l'essai thérapeutique du risperdal, que c'est la seule molécule qui a démontré quelque chose, est beaucoup plus petite que c'est de la taille d'effet des essais d'intervention quand on a formé les aidants professionnels et familiaux à la prise en charge du trouble du comportement. Donc c'est beaucoup plus efficace. Okay, vous vous dites, mais pourquoi on utilise ça? Parce que c'est chronophage, ça prend du temps, et j'espère que le système de santé, médico-social, tout ça, changera pour pouvoir former à tous les professionnels et à toutes les familles comme il le faut. D'accord ? Quels sont les facteurs donc, qui sont associés à une aggravation, parfois une aggravation, même une apparition de troubles du comportement ? C'est déjà les dents, c'est les stress, le fardeau, la dépression. C'est normal quand on est fatigué, quand on est déprimé, parce que c'est lourd. On prend moins bien les choses, et on prend moins bien les troubles du comportement de mon proche malade. Manque d'éducation sur les troubles du comportement, comprendre la maladie, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les problèmes de communication, comment je communique avec mon proche malade. Et là, il y a une adéquation entre les attentes et la sévérité. Combien de conjoints, ils le voient, c'est pas leur faute, c'est normal, ils ont vécu 50 ans avec leur mari, le mari est malade, toujours il a fait du bricolage, c'est difficile de faire le deuil, de dire qu'il n'est plus capable de mettre la table, de bricoler. Donc ça aussi, c'est une formation auprès des aidants de ne pas les mettre en échec, de ne pas faire à la place non plus. Attention, c'est l'équilibre difficile toujours. Mais effectivement, c'est une adéquation entre les attentes et ce que le patient est capable de faire. Donc c'est le poids scientifique. Je reviens à ces... je vous ai mis ici toutes les références de toutes les essais d'intervention publiées dans des très bons journaux scientifiques. Et vous avez dit, OK, formé à quoi ? Qu'est-ce que ça marchait ? Voilà, ce sont des sessions, des formations auprès des aidants informels. Là, c'était des aidants informels, mais aussi c'est pareil pour les aidants professionnels. Formé à quoi ? À réduire la complexité environnementale. Voilà, je ne sais pas, pour l'habillage, on met les choses par l'ordre. Pour mettre la table, on va le mettre devant. Vous voyez ? Augmenter l'activité. Mais l'activité du patient qui a du sens pour lui. À quelqu'un que, voilà, lutter contre l'ennui, finalement. À quelqu'un qui jamais étudie, je ne sais pas, jeux aux échecs, on ne va pas se mettre à jouer aux échecs. Donc il faut bien connaître le patient, ses loisirs, ses centres d'intérêt, ses capacités restantes. Développer des compétences pour résoudre des problèmes, donc l'aider par exemple, ce que fait Sandrine en consultation, avec, je prends l'exemple des 18 heures, il faut aller rapidement, la dame qui va aller rapidement à l'école récupérer ses enfants. Vous pouvez développer des stratégies, ça ne sert à rien de raisonner, je veux améliorer la communication, on ne peut pas raisonner, ça ne sert à rien de raisonner. Voilà, chérie, non, tu as 80 ans, tes enfants sont mariés, on a 10 petits-enfants, ça ne sert à rien. Quelles sont les stratégies, des compétences? C'est peut-être former, et ça Sandrine le fait très bien, former à l'aidant de comprendre déjà la situation et de peut-être anticiper. Et on va dire, allez, on va faire une promenade, détourner l'attention, voyez, lui proposer quelque chose, même avant le pic de 18 heures. C'est ça, ce qui marche. Simplifier les tâches et améliorer la communication. Voilà, phrase courte, ça ne sert à rien. De valoriser, beaucoup valoriser. Beaucoup reconnaître les émotions. Je vois à quel point tu es angoissé, je vois à quel point tu es fâché. Voilà, ça diminue beaucoup, mais comme toute technique de communication. Voilà, donc c'est ça ce qu'il y a. Donc, je crois que c'est ma dernière diaporama. Est-ce que j'ai le temps ?
Combien il vous reste bien 2 minutes.
2 minutes, c'est parfait, c'est parfait. Bon, quelquefois, je serai une heure de plus.
En fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de réponses.
Oui, il y a beaucoup de réponses.
Que ça s'apprend et que ce sont des stratégies.
D'accord. Et à part de ça, il faut changer le paradigme. Il faut changer nous tous, en commençant par les familles, mais aussi par tous les professionnels de santé. Jusqu'à présent, quand on parlait de troubles du comportement, ouf, le patient qui est complètement sévère, ainsi de suite. Non, il faut identifier les premiers signes de troubles psychocomportementaux, même avant les signes cognitifs, à stade léger de la maladie. C'est là que ça va marcher. C'est là que ça va marcher la formation, l'éducation de l'aidant. C'est là que va marcher les techniques de communication. C'est là que le patient a beaucoup plus de réserves cognitives, qu'elle va pouvoir adhérer aux autres mesures non pharmacologiques. Donc il faut changer le paradigme, il faut détecter les troubles du comportement dès le début. Pour ça, évolution de la filière Alzheimer, virage ambulatoire. Pour ça, formation des aidants professionnels, développement des stratégies de prévention de ces symptômes à l'équipe spécialisée Alzheimer, dans les plateformes de répit, dans tout, les accueils de jour, les infirmières à domicile, tout ça, il faut vraiment qu'on change de paradigme et identifier ces symptômes dès le début. Notre filière, un des meilleurs du monde, hein, on a eu 5 plans gouvernementaux. Bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais en Espagne, que je connais bien, ils n'ont pas tout ça. Hein. On a l'hôpital de ce côté. Consultation, moyen séjour, court séjour, hôpital de jour, les EHPAD avec les PASA, les hébergements temporaires, les accueils de jour, la télémédecine, les équipes mobiles, comportements qui font le lien. Au centre, le patient, la famille, le médecin traitant. Ici, les associations France Alzheimer et autres, il faut s'appuyer beaucoup sur eux. Hein. Les dispositifs d'appui à la coordination, les anciens Maya, entre autres, l'équipe spécialisée, les plateformes, tout ça, il faut en profiter, il faut connaître la filière pour pouvoir aider aux prochains à s'en servir aussi. Et, comme j'ai dit, ce paradigme commence à changer parce que même dans notre communauté scientifique internationale, on a déjà créé des groupes de travail, des échelles. Ce n'est pas plus un pays, c'est le déclin comportemental léger où on va pouvoir identifier ces troubles du comportement même avant la maladie en stade léger. D'accord ? Il y a des nouvelles recommandations qu'ici à Toulouse nous coordonnons. Il y a 21 groupes, plus de 150 professionnels qu'on est en train d'aborder des troubles du comportement, de prise en charge non et pharmacologique pour l'agitation, le trouble du sommeil, tout. Donc j'espère que fin de l'année prochaine, on pourra finir. On a des protocoles de recherche. Ça, je suis fière parce que je suis la investigatrice principale de l'étude personnelle. Donc je remercie ici Elodie Lestimé, Madame Lestimé qui est là, qui est chef des projets. Si jamais vous voulez participer, vous allez la voir après. Et dans ce protocole de recherche, c'est un financement ministère de la DGES où il y a 16 centres hospitaliers, centres même consultation mémoire de toute la France, on est en train d'inclure presque 800 couples aidants, patients, habitants à domicile, en stade léger, modéré de la maladie, avec des troubles du comportement léger. Et l'idée dans l'intervention, c'est qu'une infirmière forme, suit de proche, avec les nouvelles technologies, pour éviter l'aggravation des troubles du comportement et toutes ces complications. Et enfin, des avancées thérapeutiques. Vous avez dit, oui, mais vous ne m'avez rien raconté. Oui. Depuis 7 ans, je dirais, on a fait aussi un pas énorme de la recherche thérapeutique en travaillant sur le design, en travaillant sur des autres molécules cibles qui s'éloignent du risperdal, de l'aldol, qui sont très dangereux. Je vous parle de la pimavanserine, de dextromethorphan, de brexpiprazole, qui ont beaucoup moins d'effets secondaires, qui ont été très efficaces pour l'agitation, l'agressivité, les délires, les hallucinations. Et que, si tout va bien, on pourra ils pourront être sur le marché, mais dans quelques années, pas maintenant. Donc il y a aussi d'espoir du point de vue des molécules. Mais le plus important, le non pharmacologique,
non médicamenteux, absolument, et les aidants. En première intention. Merci beaucoup, professeur.